Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau petit récap de la semaine. On s'était basé sur le samedi depuis le début de la saison, mais je me suis dit que c'était peut-être un petit peu plus pertinent de décaler ça au lundi, le temps de laisser passer un petit peu les épreuves du week-end et de vous proposer un véritable condensé un petit peu plus précis et un petit peu plus complet de ce qui s'est passé lors de la semaine écoulée. Bref, je me suis focalisé sur 5 points aujourd'hui, 5 points qui me paraissaient importants si vous avez loupé des choses la semaine passée. Malheureusement, le premier d'entre eux, ça sera le retour du spectre du dopage avec les cas de Franck Bonamour et d'Antoine Toulouk. Ensuite, on reviendra sur le sportif, et c'est quand même un petit peu plus intéressant, avec l'ogre Mats Pedersen. On évoquera aussi la Fédération française de cyclisme et la baisse du nombre de licenciés. L'UAE Tour et l'Auto-Kopecky vraiment impressionnante sur les routes de l'UAE Tour. Et enfin, on parlera de la proposition un peu farfelue de Zébio Unzué qui propose de mettre en place des remplaçants lors des grands tours, notamment. Donc chacun pourra se faire son avis sur cette proposition. Mais voilà les 5 éléments que j'ai retenus cette semaine en ce qui concerne l'actualité du cyclisme de manière générale. Bref, commençons, les amis, si vous le voulez bien, avec le dopage. Comme ça, on va se débarrasser de ce sujet. Deux cas positifs dans la semaine, ça commence à faire beaucoup, je trouve, depuis quelques mois. On a eu une multiplication du nombre de cas anormaux ou positifs, parce qu'il faut différencier les deux. Antoine Toulouk, c'est anormal. Franck Bonamour, c'est un cas par rapport au passeport biologique. Donc c'est bien que ça sorte, ça fait pas trop plaisir sur le coup, mais s'il y a des tricheurs, de toute façon, faut les dégager. Et faut les dégager à vie, je pense, à moins qu'ils ne collaborent de manière honnête et utile avec les instances anti-dopage. Bref, Antoine Toulouk, ancien pensionnaire de la Lidl Trek, de la Jumbo Visma, a été victime, bien entre guillemets, bien entendu, a été notifié d'un résultat d'analyse anormal pour une présence de stéroïdes anabolisants, donc dans un échantillon collecté à l'occasion d'un contrôle hors compétition réalisé le 27 novembre 2023. Donc il était visiblement, si mes infos sont bonnes, en Thaïlande à ce moment-là. Il était encore sous contrat avec la Lidl Trek. Alors je veux pas blâmer la Lidl Trek parce que c'était un coureur qui était en fin de contrat, qui savait qu'il n'était pas prolongé. Donc je pense que la Lidl Trek, ils avaient absolument aucune idée d'où il était, parce que vous le savez, si vous êtes en fin de contrat, vous ne participez pas au stage de pré-saison, puis on vous laisse un petit peu tranquille parce que de toute façon il y a plus trop d'enjeux pour l'équipe. Donc voilà, pas parce qu'il était sous contrat chez Lidl Trek qu'il faut forcément blâmer Lidl Trek, ni sa future équipe d'ailleurs, quoi qu'on en pense de cette Sabgal, l'ancienne Glass Drive, il n'était pas encore sous contrat chez eux. Donc conformément au règlement antidopage, le coureur est suspendu provisoirement en attente de l'analyse de l'échantillon B. Donc on verra bien ce qu'il en est et on verra bien la sanction qui tombe. Ou qui tombera pour Antoine Toulouk, qui, je le rappelle, va évoluer en division continentale cette année, ou devait évoluer en division continentale cette année, au sein de la Sabgal. La Sabgal, c'est le nouveau nom de la Glass Drive, une équipe portugaise, et vous savez tout ce qui se passe à peu près au niveau du cyclisme portugais depuis quelques années. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires, je pense que vous suivez assez le cyclisme pour vous faire votre propre opinion sur ce sujet. Bref, malheureusement, ce n'était pas le seul cas. Plus gros séisme, j'ai envie de dire, non pas parce qu'il est français, mais parce qu'il est plus connu, tout simplement. Franck Bonamour, c'était le super combatif du Tour de France 2021. C'était cette soi-disant belle histoire auquel beaucoup de personnes croyaient ou voulaient croire, du petit coureur comme ça qui se révèle sur un Tour de France, qui n'avait jamais rien fait avant, ou rien de sensationnel, et qui tout d'un coup s'attire les faveurs du grand public, crée un élan de sympathie, vend une belle histoire. On sait que chez BNB Hotel, on aimait en plus vendre les belles histoires à l'époque, et il s'avérait que finalement, cette belle histoire allait à un petit côté un petit peu sombre, parce que l'UCI n'a pas précisé, vous lisez comme moi à l'écran le communiqué de l'instance dirigeante. Elle n'a pas précisé la date, mais AG2R, enfin Decathlon, pardon, AG2R a donné des précisions, et il s'agirait donc d'anomalies sur le passeport biologique de Franck Bonamour qui sont antérieures, pardon, à son recrutement au sein de la formation française. Donc potentiellement, ça pourrait concerner 2021. Moi, j'ai eu des informations, entre guillemets, enfin des informations, c'est pas vraiment des informations, mais on m'a fait part d'une théorie qui explique un peu qui expliquerait, pardon, un peu les lenteurs de la procédure, C'est-à-dire que ça daterait, si j'ai bien compris, de 2021. Et encore une fois, je parle au conditionnel. Et les instances antidopage auraient laissé le temps à Franck Bonamour de reproduire ces valeurs qui paraissaient suspicieuses. Que vous savez comment ça marche pour le passeport bio. Et si vous ne le savez pas, on analyse bien entendu vos données sur le long terme. Et si jamais il y a une montée en gamme que vous n'arrivez pas à expliquer ou qui n'est pas explicable et que vous n'arrivez pas à reproduire, eh bien on regarde et on se dit comment ça se fait que lui, il est capable d'être aussi performant ou d'avoir des données sanguines ou des valeurs sanguines si élevées alors qu'il ne les a jamais produites avant. Donc j'imagine qu'on demande au coureur ce qu'il en est, qu'on lui laisse le bénéfice du doute et de ce qu'on m'a expliqué, donc dans le cas de Franck Bonamour. Malheureusement pour lui, et ça c'est pas de chance, hein, ça n'a rien à voir avec ce contrôle, on souhaite à personne de se blesser, il a vécu une année 2022 compliquée, ce qui expliquerait, et là encore je parle au conditionnel, que l'UCI, ou en tout cas la partie antidopage de l'UCI, lui est laissée jusqu'à 2023, parce qu'on se dit que, enfin on se serait dit que 2022, forcément, il pouvait peut-être pas recréer ses valeurs. Donc, on lui aurait laissé le bénéfice du doute. J'ai posé la question à des personnes que je connais. Ils me disent que ça arrive, effectivement. Si jamais il y a un coureur qui a une période de blessure, etc., ou une période compliquée, qu'on lui laisse quelques mois supplémentaires et le bénéfice du doute, ce qui peut s'entendre, bien entendu. Donc, ça, après, derrière, ça peut amener de la frustration parce que c'est long et ça expliquerait, donc qu'on lui aurait laissé la saison 2023 pour justement essayer de prouver que c'était pas une anomalie et qu'il était capable de reproduire ce qu'il avait produit lors de cette fameuse période qui était problématique, ce qui n'a pas été le cas et ce qui expliquerait donc pourquoi ça tombe aussi tard. Et juste un petit truc comme ça en passant, on peut comprendre. Enfin, moi, quand on me l'a expliqué, du coup, je comprends. Je sais pas si c'est votre cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais ce que je trouve dommageable, si jamais l'explication que j'avance est la bonne, c'est que l'Union cycliste internationale n'explique pas ça. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails sur quelle valeur a merdé, sur quelle valeur est problématique. Mais pourquoi ne pas expliquer tout simplement, de manière très transparente, si c'est le cas, donc pourquoi ça a pris autant de temps? Je pense que les gens sont pas débiles, les gens sont en mesure de comprendre et ils accepteraient, je pense, enfin vous accepteriez, je pense, pour la plupart, d'entendre qu'on laisse le bénéfice du doute à un coureur. C'est plutôt louable en plus et c'est plutôt juste, je trouve. Donc c'est dommage de ne pas communiquer si c'est le cas sur le sujet parce que vous le savez comme moi, la nature a horreur du vide et quand il n'y a pas d'explication officielle. C'est humain, un petit peu, on a tous un petit peu, peut-être un petit côté complotiste ou autre, ou en tout cas on aime comprendre les choses, donc forcément, comme je le dis, la nature a horreur du vide, et si on ne donne pas d'explication, on cherche à en donner une, et elle est peut-être pas forcément la bonne, donc voilà, on aurait tout à gagner, je trouve, à faire preuve de pédagogie, de transparence par rapport aux différentes procédures. Tout le monde peut comprendre, je pense, en plus. Donc ça serait bien de mettre en place ce genre de procédé, je trouve, de la part de l'Union cycliste internationale. Bref, c'est pas forcément le point le plus intéressant de la semaine et ça vient encore polluer l'actualité. L'actualité sportive, pardon, décidément j'ai avalé de travers. Donc l'actualité sportive, c'est Mats Pedersen, impressionnant lors de l'étoile de Bessèges. Il a remis le couvert autour de la Provence, pas moins de 3 victoires d'étape et classement général. C'est vraiment impressionnant de la part du Danois de la Lidl Trek qui a failli faire le Grand Chelem. Ça s'est pas joué à grand-chose lors de la dernière journée de la course. Pardon, j'ai décidément un petit chat dans la gorge. Je suis désolé pour le petit raclement de gorge. Donc oui, Mats Pedersen remporte 3 étapes et le classement général, ça fait 6 victoires cette saison, c'est absolument énorme. Il faut dire que les parcours l'ont aidé parce que c'était pas franchement dur et c'était décevant en Provence et à Bessèges. La concurrence n'était pas au rendez-vous non plus, mais quoi qu'il en soit, ça montre un état de forme quand même assez exceptionnel de la part de Mats Pedersen qui sera à surveiller lors de Milan-San Remo, lors des classiques printanières et à l'occasion de Paris-Nice, pas pour le général, mais pour les étapes, bien entendu. Donc Mats Pedersen, vraiment l'ogre de ce début de saison 2024, je trouve, en tout cas chez les hommes. Le troisième point, si vous le voulez bien, il concerne la Fédération française de cyclisme. Mais malheureusement, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, puisque d'après un document que j'ai pu consulter dans son entièreté, il y aura d'autres éléments que je souhaiterais soulever dans les jours à venir certainement. On verra si j'arrive à avoir des infos complémentaires. Bref, dans ce document, donc un compte-rendu du bureau exécutif de la Fédération française de cyclisme. On note ou non, c'était un autre document, enfin je sais plus, bref, c'est pas le plus important, mais en tout cas dans ce document, on note dans le compte-rendu qu'il y a eu malheureusement une baisse de licenciés au 30 septembre 2023. Pourquoi le 30 septembre 2023? Parce que c'est fin septembre qu'on fait les comptes sur l'année, en fait c'est 30 septembre 2022, 2021, etc., etc. Donc on prend un point, forcément faut bien prendre un point de repère à un moment, et c'est cette date qui a été choisie. Voilà pourquoi on parle du 30 septembre et pas du 1er janvier. Bref, à ce point de comparaison donc de la fin du mois de septembre, le nombre de licenciés s'élève en France à 107 827, ce qui représente donc d'après ce document une baisse de 1,68% du nombre de licenciés. Pour être plus précis, pour avoir un ordre de grandeur, ça donne 1841 personnes en moins qui ont une licence. Alors c'est assez problématique, j'ai lu un petit peu les commentaires sur Facebook quand on a publié l'information. Vous avez été nombreux et je vous en remercie, parce qu'on critique souvent les réseaux sociaux et Facebook et Twitter parfois à juste titre, mais là il y avait des vrais commentaires intéressants, je trouve, des gens qui expliquaient pourquoi ils n'ont pas pris de licence, pourquoi ils vont vers la FCGT, pourquoi ils vont vers l'UFOLEB, etc., etc. Donc merci pour vos commentaires, parce que ça aide à y voir plus clair. Il n'y a pas de meilleur retour que celui du terrain pour essayer de comprendre et de mieux appréhender les situations. Donc voilà ce qu'il en est. Perte de licenciés, c'est dommageable. Personne ne prend de plaisir à ça. Je pense qu'il n'y a pas de question, parfois, comme on peut l'entendre, d'opposition à la FFC ou quoi que ce soit. Bien entendu, je pense que tout le monde dans le monde du cyclisme serait heureux de commenter une augmentation de 10% du nombre de licenciés en France. Ça fait pas le moindre doute. Et ceux qui essaieraient de vous faire penser le contraire sont tout simplement des menteurs. Par ailleurs, une autre info, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, et je voudrais quand même la noter dans le document donc que j'évoquais. On s'aperçoit que chez les comités régionaux ultramarins, donc dans les DOM-TOM, le nombre de licenciés est en hausse. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça baisse en métropole, donc, mais il y a une petite lueur d'espoir, entre guillemets, ou un petit signal positif. Avec, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu le document, une augmentation dans les départements ultramarins. Et il semblerait aussi, et ça n'a pas été rajouté, il faudra que je vérifie, que chez les femmes, il y a une petite aussi augmentation du nombre de licenciés. Et ça également, ça serait une bonne nouvelle au milieu de cette news qui n'est pas forcément la plus réjouissante. Bref, le quatrième point, pour essayer d'avancer un petit peu, parce que je me rends compte que cette pastille va risque d'être un petit peu longue. Aujourd'hui, donc je voulais parler comment dirais-je, de l'autocopéquie, parce que l'autocopéquie, je vous en avais parlé lors des différentes émissions de la semaine. Je vous avais dit que c'était pour moi quand même assez probable, ou en tout cas une possibilité qu'elle remporte le classement général de l'UAE Tour, vu ce qu'elle avait montré sur le dernier Tour de France, où elle était juste derrière finalement Demi Vollering. Et ça n'a pas manqué lors de la montée de Jebel Afet. Eh bien, l'autocopéquie, même si on aurait pu penser à un moment qu'elle était en difficulté, elle est vraiment montée de manière régulière. Neve Boadbury, à un moment, aurait pu s'imposer. Finalement, elle s'est un petit peu, pas écroulée, mais elle a un petit peu baissé en intensité. Kopecky en a profité pour produire un effort. Et elle a été plus forte que Gaillard et Aligny, elle a été plus forte que ses autres concurrentes. Et elle va remporter une victoire de prestige, donc remporter ce classement général de l'UAE Tour. Et ça montre vraiment la force de Lotto Kopecky, qui pour moi est tout simplement la meilleure coureuse du monde, ou en tout cas la plus complète. Alors ça fera débat, n'hésitez pas à le dire si vous n'êtes pas d'accord, si vous pensez que Demi Vollering est au-dessus, mais voilà, moi je suis un petit peu plus impressionné quand même par Lotto Kopecky, et je suis pas forcément trop étonné qu'elle ait remporté ce classement général de l'UAE Tour. Aussi parce que Jabel Afet, c'est une autoroute en fait, où c'est quand même, enfin, monter en puissance, être capable de produire des watts et d'être assez régulière. Bah, je pense que c'est un avantage. C'est pas la montée, je sais pas, du Tourmalet ou un col en Italie ou le Mortirolo, où vraiment là, les pourcentages, je pense, créeraient des problèmes pour Kopecky. Là, c'était vraiment une montée adaptée à ses caractéristiques et elle ne s'est pas loupée, donc elle remporte le classement général de Cyathea Tour. Et elle commence la saison plutôt de belle manière, parce qu'on s'aperçoit aussi sur sa fiche, quand on regarde le site de First Cycling, qu'elle a déjà remporté la course au point et l'élimination des championnats d'Europe qui se sont disputés à Apeldoorn. Donc c'est aussi pour ça que j'apprécie beaucoup sur le plan sportif, parce que je la connais pas, Lotto Kopecky, parce qu'elle est très complète, je trouve, et ça fait plaisir à voir de voir une athlète aussi forte et dans autant de domaines, tout simplement. D'ailleurs, on le voit sur le petit résumé de First Cycling, pavé, montagne, course par étape, plat contre la monte. Bon, ça pose un petit peu les bases. Bref, le dernier point que je voulais soulever, point un petit peu curieux ou qui fera sourire beaucoup d'entre vous, j'imagine, c'est la sortie de Zebio Unzué. Zebio Unzué qui souhaite des remplaçants sur les grands tours, ça a zéro sens. Pour moi, ça va à l'encontre de tout ce qui fait le cyclisme et notamment le principe d'endurance. C'est trop facile, ça avantage les armadas, parce que forcément, plus vous êtes une grosse équipe déjà, plus vous êtes en mesure d'avoir des remplaçants qui sont compétitifs. Ça pose un problème d'équité parce qu'il propose de tout simplement pouvoir mettre en place des remplacements lors de la première semaine de course, tout en réduisant les grands tours à 2 semaines. Donc ça fait qu'en gros, jusqu'à 50% de l'épreuve, on est plus ou moins serein. Enfin, c'est assez ubuesque. Je l'ai dit, le cyclisme, c'est un sport d'endurance. Quand on est au watt près, à la minute près presque pour la récupération, etc., comment est-ce qu'on peut envisager déjà sereinement? Bah, je sais pas, je prends un cas concret pour UAE par exemple, ou même pour Jumbo. Imaginons que Pogacar se blesse au bout de 6 jours de course, on le remplace par un Ayuso qui est complètement frais. Bah, c'est pas juste en fait, parce qu'Ayuso il aurait 5 jours ou 6 jours de course de moins que les copains, et forcément avec de la fraîcheur qui est largement enfin un état de fraîcheur qui est largement supérieur à la concurrence. Imaginons aussi qu'on remplace Vingegaard par Kuss chez Jumbo au bout d'une semaine, c'est un petit peu la même histoire. Puis après, il faudrait quand même se poser des questions d'ordre de pratique. Le classement général, on en fait quoi? À quel moment on pourrait envisager qu'on donnerait le même temps justement à Ayuso qu'à un Pogacar? Imaginons après une première semaine de course, en plus c'est tout à fait plausible parce que Pogacar est souvent meilleur en début de course, s'il avait une trente d'avance sur Vingegaard et qu'on le remplace par un Ayuso au bout de 6 jours qui doit justement lotter contre Vingegaard avec une semaine de fraîcheur en plus et avec une trente d'avance au général. Bah, ça a zéro sens en fait. Enfin, quand on y réfléchit, c'est juste pas possible. Et si jamais on lui enlève le classement général, je sais pas, qu'on lui met un malus, bah, le gars il va plus viser le général et il va aller chasser les étapes. Encore une fois, ça va flinguer les petites équipes, ça va flinguer les baroudeurs parce qu'ils vont se retrouver face à des mecs, Ayuso et d'autres, hein, parce qu'on pourrait faire beaucoup de changements, bah, qui seraient frais et qui du coup se convertiraient en énormes chasseurs d'étapes. Imagine une première étape, une semaine du Tour de France montagneuse. Inversion des normes, entre guillemets, on fait rentrer un sprinter au bout de 6 jours, bah, par rapport à ceux qui seraient là depuis le début parce que t'as pas le choix en termes d'effectifs, et bah, t'as un sprinter frais qui n'a pas eu à passer la montagne, qui n'a pas eu à subir justement les difficultés et les ascensions, et ça serait complètement aussi problématique, sans oublier bien entendu les blessures stratégiques. Cas de figure normal, première semaine dans le nord de la France. Limite, on a des pièges. On explique que Vingegaard est blessé au départ du tour. On le fait rentrer au bout de 6 jours à la place je sais pas, de Lafcoy. Et l'affaire allait jouer. Enfin, vous voyez que c'est pas possible. Il y a tellement d'abus possibles et ça va tellement à l'encontre de l'essence même du sport qu'est l'endurance. Et j'ai bien aimé d'ailleurs la sortie de David Moncoutier parce qu'ils en ont parlé un petit peu sur Eurosport. Expliquer que justement, bah, l'endurance, c'est la base du vélo. On n'est pas sur du foot ou sur un sport collectif, sur le hand ou le basket, pour ceux qui suivent ces sports-là, où on peut changer de joueur toutes les 3 minutes. Ça fait partie bah, là aussi, de l'essence même de ces sports-là. Mais pour le vélo, c'est pas le cas. Et on ne peut pas. Enfin, une chute, c'est triste. Personne n'aime voir les coureurs chuter, mais ça fait partie du sport aussi, du cyclisme. Donc, bah, même si c'est triste, hein, il n'y a pas de raison qu'on puisse faire un remplacement. Puis on le voit déjà, les coureurs ou les staffs qui expliquent que parfois, je sais pas, sur une Vuelta par exemple, en fin de saison, ça arrive souvent, il y a des coureurs qui sont blessés. Alors, parfois c'est caché, parfois même pas. Bah, une fois que le médecin il a dit que le mec n'était pas en état de courir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas envoyer un autre médecin pour faire une contre-visite, après lancer des procédures X ou Y pour essayer de contrecarrer l'avis médical du médecin de l'équipe concernée pour pas que le remplacement ait lieu. Enfin, c'est potentiellement ouvrir les portes à quelque chose de très problématique et de très compliqué. Enfin, en gros, ce serait une vraie usine à gaz. Donc, ça a zéro sens. Osibio Nzoué, je pense qu'à un moment, il serait temps qu'il passe la main. Parce que des idées comme ça a vraiment aucun lieu d'être, quoi. Bref, voilà un petit peu pour ce résumé. Si je prends en compte tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, si vous voulez un petit condensé, les infos majeures de la semaine, c'était malheureusement l'actu du dopage. C'est Mats Pedersen qui fait un énorme début de saison. C'est Lotto Kopecky qui a été impressionnante lors de l'UAE Tour. La baisse de licenciés malheureusement au niveau de la Fédération française de cyclisme et cette idée un peu saugrenue de Zébio Inzoué. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, je lirai bien entendu avec attention tous vos avis et toutes vos critiques constructives. Donc je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Ciao, à bientôt!